R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Bonsoir, bienvenue. Je me présente, je m'appelle Mami Kaba et j'assure la technique à la radio R22. J'ai fait la connaissance d'un groupe qui s'appelle The Living and the Tight Ensemble. Donc je rappelle que ce sont mes confrères qui viennent d'Haïti. Et j'ai assisté à l'ouverture, le titre du film, l'ouverture au festival Traveling de Rennes. Et aujourd'hui, l'enregistrement, il va se passer autour, ou va s'articuler autour de cet événement, enfin de ce film, et à travers d'autres projets en perspective. Et donc, je commence par le film, l'ouverture. Et en tout cas, il y a eu des réponses quand même ou des retours qui m'ont beaucoup plu par rapport à la consolidation ou comment le film il a été fait. Et moi, j'ai des questions par rapport à ça, donc qui peuvent s'ouvrir aussi à d'autres horizons. Et la question, elle est la suivante. Donc, pourquoi Glissant a choisi Haïti pour créer une communauté autour de la Caraïbe en mettant en scène l'héros c'est lui qui a donné l'indépendance à Haïti. Donc Toussaint, voilà. Donc l'héros qui est Toussaint. Donc pourquoi Glissant, qui est martiniquais, a choisi Toussaint comme héros qui peut réunir toute la Caraïbe dans une unité? Et donc moi, ça m'a intrigué énormément. Donc j'aimerais que le débat il commence à s'ouvrir par rapport à cet angle.
Bonsoir, je suis Cynthia Mignon, comédienne, actrice, membre de The Living and the Dead. Je suis très contente d'être ici parmi vous. La question, c'est pourquoi Édouard Glissant a choisi de parler de la révolution haïtienne et de mettre en scène Toussaint Louverture? Pour commencer, je voudrais dire que, en fait, c'est juste une petite précision. En fait, c'est Toussaint, il a participé à l'indépendance, mais c'est pas que lui. C'est le précurseur parce qu'il est mort avant. Il est mort en 1803, donc c'était avant la révolution, mais il est celui qui a commencé, en fait. C'est le précurseur. Ensuite, il y avait d'autres héros qui ont continué la bataille. Donc ça, c'est juste une petite précision. Donc, pour tenter de répondre à la question, parce que je ne crois pas avoir la réponse, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans la tête d'Édouard Glissant quand il a écrit la pièce, mais d'après moi, c'était pour essayer de faire le lien entre Haïti et les autres pays de la Caraïbe, parce que nous avons une histoire partagée, parce que nous, ces pays-là, Haïti, la Martinique, la Guadeloupe, ont un point commun, tous des colonies françaises. Donc, il y a quelque part, il y a un partage, il y a un lien. Donc, du coup, c'est en fait pour essayer de prendre Haïti comme la révolution haïtienne à titre d'exemple, si je peux dire ainsi, pour peut-être inciter d'autres mouvements qui pourraient favoriser la libération, l'indépendance des autres pays de la Caraïbe qui sont encore sous le joug de la France ou d'autres métropoles européennes, si je peux le dire ainsi. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a envie d'ajouter quelque chose.
Et mon nom est James Desiris, membre de l'ensemble. Et pour continuer, pour faire suite avec ce que venait de dire Cynthia, ben oui, effectivement, et Édouard Glissant a écrit ou bien et se sert de Monsieur Toussaint, son livre, et puis pour parler de la révolution haïtienne, pour parler des héros qui ont mené l'indépendance d'Haïti, bien que Toussaint Louverture, lui, il est l'un des précurseurs. Et après, il y a le grand Jean-Jacques Dessalines, c'est lui qui a mené la bataille de l'indépendance et puis et nous a conduit jusqu'à la victoire. Mais Édouard Glissant, étant donné que dans cette période-là, vers les années 60-70, dans cette période, dans ces périodes-là, il y a un vent de qui souffle sur les Antilles, surtout les départements d'outre-mer et de la Caraïbe, et puis qui réclament l'indépendance. Et Édouard Glissant, lui, il a utilisé l'histoire, il a utilisé la révolution haïtienne pour inciter, pour mener la bataille, pour dire, tiens, voilà, étant donné que lui, il est dans un combat d'idées, et puis il a dit, ok, tiens, voilà que, regardez la révolution haïtienne, regardez les héros de l'indépendance d'Haïti, même bien que on dit que on prend Haïti à titre d'exemple pour dire que Haïti ben c'est un rejet, c'est un pays maudit, c'est une malédiction, quand ces hommes-là ont voulu l'indépendance, on dit ben tiens voilà, vous voulez que la Guadeloupe ou la Martinique sont devenus comme Haïti, regarde Haïti, ben il est un déchet, il est une poubelle. Vous voulez que vos pays soient comme ça? Et puis ben lui il a dit ben tiens voilà, non, regarde Haïti. Regarde ce qu'avaient fait les héros de l'indépendance d'Haïti.
Et James, je pense que ce que tu dis, c'est intéressant. Et moi, j'aimerais bien qu'on creuse là-dessus. Pourquoi Glissant, il a choisi Haïti? Moi, à mon avis, enfin, je dirais plutôt que d'après les répartitions enfin, des colonies françaises dans les Caraïbes, donc Haïti est à l'extrême au niveau financement, n'est pas comme la Martinique, n'est pas comme la Guadeloupe. Et pourquoi moi ça m'intrigue, pourquoi on choisit Haïti? Est-ce que ce n'est pas montrer ce côté extrême aussi délaissé que la France a choisi de donner un sort à Haïti, quoi, par rapport à ça? Moi ça m'intrigue énormément. Pourquoi en fait?
Haïti est devenue la première république noire du monde, la première colonie qui a pris son indépendance. Et face à la France, ce n'est pas n'importe quelle France, ce n'est pas n'importe quelle armée, c'est l'armée napoléonienne, la plus grande armée du monde à l'époque. Et une armée de bandes à pied, une armée une armée indigène qui n'a pas vraiment une formation militaire comme et à l'Occident. Et puis, cette armée-là a mis en déroute le général Rochambeau, a mis en déroute l'armée française. Et c'est à partir de là, c'est un gifle, et puis on dit, ok, tu sais, voilà, on va faire Haïti comme exemple, parce que si on laisse vraiment Haïti à mener ce combat-là, parce que Jean-Jacques Dessalines, lui, dans son démarche, c'est dire que depuis Haïti, on va faire un empire. Et lui, il a écrit dans la première constitution d'Haïti, quiconque, quelle que soit ta nationalité, quel que soit qui tu es, automatiquement que tu as mis tes pieds sur la terre d'Haïti, qu'on appelle la terre de la liberté, alors, t'es libre, t'es un homme libre. Alors, il a dit que Haïti devrait être un empire. Et il a commencé par mener la bataille dans la Caraïbe, dans l'Amérique latine, et ainsi de suite. Même après sa mort, il y a d'autres héros de l'Amérique latine, il y a d'autres héros de la Caraïbe qui ont venu en Haïti pour solliciter d'aide, parce que Haïti était érigé étant empire pour aider les autres colonies à prendre leur indépendance. Et c'est à partir de là que la France, et ce n'est pas seulement la France, mais les puissances européennes, ils ont dit que, bon, tiens voilà, si on laisse Haïti à mener ce combat-là, il ne reste plus de colonies. Et c'est à partir de là qu'on a dit, il faut isoler Haïti. Et il faut faire Haïti comme étant modèle de déchéance. Et c'est ce poids-là qu'on paie jusqu'à présent. Et regarde le pays et, qui partage l'île avec la République dominicaine. On a dit que la République dominicaine doit être un pays où l'on investisse. Et Haïti doit être l'exemple jusqu'à présent de la déchéance. L'exemple pour dire qu'avec la Guadeloupe, la Martinique et tant d'autres et pays antillais qui veulent leur autonomie pour dire que tiens voilà, regarde Haïti jusqu'à présent, hein, vous voulez ça? C'est ça. Et ce discours-là maintient toujours. Et Edouard Glissant, lui, il a dit, tiens voilà que regarde la révolution haïtienne. Si on veut vraiment être indépendant, être autonome, être un pays, alors il faut suivre cet exemple-là. Mais non pas comme à titre d'échéance, mais plutôt à titre révolutionnaire.
Je te passe la parole après, Bijou. Mais je voulais ajouter une chose peut-être qui est pas très connue dans la perspective française, mais au moment où Glissant aussi a écrit à Monsieur Toussaint, on est encore au moment où en France, où déjà on a... Bon, ça a duré jusqu'à récemment, peut-être ça dure même encore. On est encore en train de se penser comme la plus grande démocratie du monde et comme le pays de la liberté. Il faut se rappeler que la Révolution française dissimule la Révolution haïtienne. En fait, en France, les gens, ils ne connaissent pas la Révolution haïtienne. Et on oublie, en fait, que la Révolution haïtienne est pourtant une révolution plus ambitieuse que la Révolution française. Parce qu'en fait, ce que propose, en fait, de Saline, c'est ce qu'on est censé proposer la Révolution française, c'est-à-dire toute personne qui, pour la Révolution, est française. Parce qu'au moment de la Révolution, beaucoup de gens affluent de l'Europe, d'Allemagne, de Belgique, pour participer à la Révolution française. Sauf qu'en fait, à cette époque-là, la France, comme État-nation, a des colonies esclavagistes. Donc la question de l'égalité totale des citoyens n'est pas vraie, puisqu'une partie des gens qui sont censés être sur le territoire français n'ont aucun droit. Et donc Haïti est aussi une espèce de révolution dans la révolution, c'est-à-dire qu'il donne le droit absolu à tous, noirs compris, anciens esclaves compris. Donc c'est une révolution plus ambitieuse et plus égalitaire, où le rapport des hommes et des femmes aussi est noté comme égalitaire, alors que ce n'est pas le cas dans les débuts de la Révolution française, et qu'il y aura tout un combat pour que des rapports d'égalité existent. Donc la Révolution haïtienne, c'est vraiment une révolution d'égalité radicale. Et je pense que ce que fait Glissant aux Antilles à cette époque-là, c'est qu'il rappelle que cette révolution existe aux Français. Et c'est aussi pour ça qu'il écrit le livre en français. D'ailleurs, on se posait la question du créole et du français. Le livre de M. Toussaint, et la pièce de théâtre, est adressée à la France, en fait. Pour leur dire, il y a une grande révolution qui s'est déroulée dans la Caraïbe, et vous n'êtes pas les dépositaires de la modernité, ni politique, ni esthétique. Il y a d'autres modernités. Et ça, c'est très ambitieux, parce qu'on va mettre des décennies à ce que ça devienne une réalité, après sociale, culturelle, politique. On est encore au moment, et je trouve qu'on est encore assez largement en France, construit avec l'idée qu'on est porteur de la modernité politique, intellectuelle, démocratique, ouais, des Lumières. Mais ce qui reste, autant les parties peut-être les plus, je dirais, grotesques de ça, on commence à tout le temps doucement s'en débarrasser, mais ça va beaucoup plus profondément que ça, parce que notre rapport même à la démocratie, on pense encore qu'on est un modèle de démocratie malgré nos petits défauts. Et en fait, la démocratie française, elle est construite sur l'exploitation, donc c'est quelque chose qui est un peu terrible. Donc évidemment, Glissant, il le dit dans une logique révolutionnaire, hein, juste pour donner un dernier détail, c'est que dans les années 60, en fait, il y a beaucoup de velléité, l'indépendantisme est très élevé en tant que représentation politique aux Antilles, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion aussi, et qu'en fait la France va créer ce dispositif qui s'appelle le Bumidome, qui permet en fait, qui facilite l'immigration des Antillais vers la métropole assez massivement pour défaire les dynamiques indépendantistes. Donc il va favoriser en fait l'immigration massive. Beaucoup de gens même parlent de vider les pays. Il y a 70 000 personnes qui vont voyager vers la métropole. Partant du principe aussi qu'ils voyagent vers la métropole en tant que citoyen français, mais quel que soit leur niveau d'études, ils arrivent comme personnes en métropole, comme personnel non qualifié. Donc ça raconte aussi toute la violence du système. Donc ils deviennent ouvriers, mais ils ne peuvent pas rentrer avec des diplômes qu'ils ont eus dans les Antilles, avec des équivalents en France. Donc ils sont quand même traités comme des étrangers. Mais en tout cas, c'est vrai que le bimidome, au moment où Glissant écrit, on est en plein là-dedans. Et le moment, le pic historique de l'indépendantisme dans les Antilles, on est tout doucement en train de revenir à des situations équivalentes, mais on est encore assez loin d'une situation qu'on a oubliée dans les années 70. C'est 30% d'indépendantistes sur l'île, c'est-à-dire c'est pas loin de pouvoir obtenir. On est très proche de la possibilité d'une indépendance. Donc c'est vrai que Glissant, il écrit aussi parce qu'il veut pousser dans ce sens-là à l'époque, quoi.
Voilà, c'est bien. Et là, je pense qu'on était dans l'aspect géopolitique d'Haïti et ses environnants et tous ces pays à côté. Et cette fois-ci, enfin, j'aimerais bien me pencher par rapport à l'ouverture du film. Et on a passé 2 jours ensemble et c'était chouette. Et dans ces jours, j'ai vu des questions qui m'ont un petit peu gêné. Et quand on dit que dans le film, l'ouverture, les dimensions, enfin, quand on parle des dimensions dans l'ouverture, enfin, que ça soit au niveau poétique, au niveau culturel et du corps. Donc moi, je me demandais que les dimensions-là sont plutôt dans le corps des personnes qui vivent ces moments-là ou ces situations, ou plutôt dans le regard des personnes qui fixent ces mouvements, quoi, comme au cinéma ou dans les livres. Et du coup, moi, je ne comprends pas cette dimension déjà-là, quoi. Comment elle se situe, la dimension, dans le film L'Ouverture? Parce que moi, pour moi, dans la poésie, la dimension, elle est déjà là. Parce que c'est un truc qui existe depuis longtemps. Et pour moi, il n'y a pas de dimension. Mais vous avez répondu à ces questions et moi, ça m'a intrigué un petit peu. Moi, à mon avis, il n'y a pas de dimension. Il y a déjà une dimension depuis à la base, d'après déjà la situation géopolitique. Et donc, j'aimerais vraiment qu'on éclaircisse un petit peu ce passage.
Bonjour, je m'appelle Léonard. Léo, c'est mon nom de scène. Par rapport à la dimension, effectivement, je pense qu'il y a une dimension qui est déjà à la base et qui d'ailleurs est la matière même du travail qui va devenir ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il continue d'être d'ailleurs. Et c'est pour ça que je vais essayer d'expliquer plus ou moins ce que on peut entendre par dimension. C'est que tout comme le travail évolue et qu'aujourd'hui on a accès aux films dans des salles de cinéma, via d'autres dispositifs et dans d'autres contextes, chaque présentation du projet, chaque strate, si on veut, apporte bien sûr quelque chose de nouveau. Et donc, ça, c'est une part. Et d'autre part, il y a la perspective du public qui regarde le film. Ça peut être un public qui découvre le film, dans le sens que c'est la première fois que le public regarde le film. Redécouvre le film, qui est d'ailleurs mon cas, parce qu'à chaque fois que je regarde le film, je l'ai dit aujourd'hui, je découvre des choses que je n'avais pas remarquées au départ. Et donc c'est peut-être là aussi un rapport dimensionnel, mais en ce qui a trait à la matière en soi, donc le contenu du film, je pense que la spirale, c'est très bien l'expliquer, au fait, c'est que c'est infini. Il y a toujours des choses à découvrir, toujours des choses à voir, toujours des choses qui, au fait, dépendamment du contexte aussi, rajoutent à l'efficacité ou plutôt ce que c'est déjà comme produit, comme œuvre d'art. Et donc, c'est multidimensionnel, oui, je pense.
Non, je voulais peut-être relancer, Mamie, sur quelque chose que tu dis sans dire, mais pour toi, en fait, il y a la question aussi de porter un héritage culturel, un savoir dans le corps lui-même.
Exactement.
Par rapport à la construction d'un savoir par la lecture, par le fait de voir des films. Et je pense que chez toi, il y a une question vraiment de savoir comment on porte un héritage culturel, comment on est capable d'en parler, à partir de quel type de savoir. Et je crois que tu discernais un peu un savoir intégré dans le corps et dans le vécu par rapport à un savoir qui va être lié à de la lecture, à de la recherche, à des œuvres culturelles, quoi.
Exactement, oui. Et donc moi, à ce niveau-là, déjà tu l'as dit, Léo, la spirale, elle a commencé quand? Dès le départ. Et donc, pour moi, pour ces corps-là qui intègrent ces mouvements, il n'y a pas de dimension déjà, même poétique. Parce que la poétique, la dimension poétique était déjà à la base. Et de génération en génération, elles ont toujours porté enfin, ce discours-là, enfin, que ça soit tessal, que ça soit enfin, Toussaint, Glissant, enfin, enfin, tout ce qu'ils font, même le football, même le, enfin, les footballeurs ou les artistes ou enfin, les marchands, chacun a pu porter quand même cette dimension-là. Donc moi, pour moi, vouloir aller dans ce sens, ça m'a un petit peu intrigué, quoi. Donc c'est pourquoi j'ai posé cette question-là, quoi, de dimension. Pour vous, ça vous dit quoi?
Je suis tout à fait d'accord. Juste pour essayer de répondre, et puis après je passe le micro à quelqu'un d'autre dans l'équipe. C'est que, oui, bien sûr, au fait, c'est qu'on ne saurait pas, je pense, et vraiment faire le bilan de tout ce qu'il y a de potentiel, au fait, en termes de dimension, de charge émotionnelle, poétique, quoi que ce soit, en tout cas, qui rajoute à la portée, à la valeur de ce travail. Parce que, évidemment, je l'ai dit aujourd'hui lors d'une entrevue, c'est que il suffit d'aller en Haïti pour voir à quel point, au fait, on se perd dans un chaos de tension. Il y a des choses qui viennent de tout part, au fait. Et par rapport au corps et la portée, ou plutôt le savoir, comment incarner, porter des choses vécues ou transmises à l'école. Je dis ça juste pour prendre l'exemple. C'est que oui, bien évidemment, il faut faire avec ce qu'on a, et c'est toujours de toute façon avec ce qu'on a qu'on fait. Et puis, il y a de ces choses au fait que de toute façon, c'est exactement ce que je voulais dire au fait. Si on commence à poser la question de savoir niveau corporel, qu'est-ce que, ou alors comment est-ce qu'il y a une technique, une méthode pour porter une charge, quelque chose, enfin une essence, je ne sais pas, qui est importante et qui a sa part. Une partie alicote, voilà, d'un travail, c'est presque comme entraver la personne qui devrait répondre à cette question, parce que ça dépasse de toute façon. Mais je dirais, ne serait-ce que dans notre rapport personnel, parce que de toute façon, nous sommes de base des amis, et puis des gens qui ont fait de la scène avant, et puis qui partagent cette chose commune qui est l'espace et l'histoire, la culture, etc. Et donc voilà, c'est ça, ça peut monter, descendre à l'infini, je pense.
Mais je crois en fait que j'avais pas trop compris la question par rapport aux dimensions, je l'avais dit tout à l'heure, enfin... J'avais pas trop compris en fait ce que tu voulais dire.
Je reformule la question. J'ai dit, on a passé 2 jours ensemble et il y a eu des interviews, il y a eu des questions auxquelles vous avez répondu. Et dans ces questions, il y a une question qui s'est beaucoup penchée sur la dimension que dans le film L'Ouverture, il y a une dimension poétique qui a été portée et qu'on voit cette dimension. Et qu'il y a une dimension aussi émotionnelle et culturelle. Et donc, j'étais intrigué de vous voir répondre à cette question. C'est ce que Olivier disait tout à l'heure. Cette dimension déjà existe dans le corps. Elle la traverse. Ce n'est pas écrit dans un livre et que tu lis après. Pour des personnes qui la vivent, cette dimension-là. Donc ma question, elle est basée. Pourquoi vous êtes allé dans ce sens? Pour vous, qu'est-ce qui constitue une dimension dans L'Ouverture pour vous? Dans le film L'Ouverture?
Donc pour commencer, mon nom c'est Sophonie Ménien. Donc je suis membre du collectif de Living and the Dead Ensemble. Et donc pour répondre à ta question, en fait moi j'avais compris en fait la question par rapport aux dimensions comme en fait des axes d'analyse, ou je dirais des axes de perception en fait du film. Par exemple, c'était la personne qui avait posé la question, c'était en tant que spectateur en fait, c'était la manière dont elle avait vu le film. Donc, du film, elle a tiré, en fait, la personne qui nous avait interrogé. Donc, elle a dégagé 3 axes d'analyse. Donc, une dimension poétique, une dimension historique et puis une dimension contemporaine. Donc, c'est comme ça que je l'avais compris. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas compris au départ ce que tu voulais dire, en fait, par rapport à... En fait, quand tu as dit que ça t'a gêné, en fait, la question des dimensions, je n'avais pas compris, en fait...
Ça ne m'a pas gêné. Ça m'a intrigué de voir que le groupe a répondu à cette question et que ça tournait.
Parce que pour moi, en fait, c'était comment, en fait... comment le film a été perçu. Donc, je dirais, c'est pour ça que j'ai répondu aussi par rapport à la question de la dimension poétique. Pour moi, il y a cette partie-là, parce qu'on avait parlé de la question de la spirale aussi. Donc c'est qu'on retrouve aussi dans la forme du film, donc dans les mouvements qu'on retrouve dans le film, les répétitions et même dans le langage aussi. Il y a même un passage dans le film où on parle du spiralisme. Je crois que c'est toi, Léo, qui parle de ça par rapport au langage aussi. Et puis aussi, il y avait la question de l'histoire, en fait, l'histoire de la révolution haïtienne et tout ça. Donc là, c'est là encore, c'est un élément qu'on retrouve dans le film. Donc ça, je pourrais dire, en fait, pour moi, dimension, j'avais compris dans le sens des thématiques, en fait, qu'on peut faire ressortir du film. Donc,
peut-être pour affiner un tout petit peu la question et te la reposer, en fait, pour poursuivre aussi, en tout cas, dire à ma manière, peut-être... Je ne sais pas si c'est exactement ça que Mamie veut dire, mais je pense que la question des grilles d'analyse qui séparent des catégories entre politique, émotionnelle, historique, qui donc créent des catégories épistémologiques, tu vois, qui vont vraiment analyser, je pense que pour lui, il se dit ça, c'est rassemblé dans le site du corps comme une seule type de dynamique, c'est-à-dire que analyser un film en séparant des aspects, c'est quelque part séparer des choses qui ne sont pas séparées dans le vécu. Comme la question des temps, ils disent oui, donc il y a le passé, le présent. On sait que dans les esthétiques de la Caraïbe, la question du temps n'est pas du tout distribuée de la même manière que dans les analyses, des rites occidentales. Et je pense que c'est plutôt la question de la séparation pour analyser, qui est vraiment un héritage de la modernité. C'est-à-dire, on sépare les choses pour les comprendre, tu vois. Alors que je pense que dans la question caraïbe, la question de la séparation n'est pas vécue de la même manière. Il n'y a pas de rapport sujet-paysage, il n'y a pas de rapport nature-culture, il n'y a pas de rapport... Donc la grille d'analyse est quelque part un peu imprégnée de la culture de la modernité occidentale, alors qu'effectivement, le poétique et politique, on sait que c'est glissant, le terme d'ailleurs est quasiment équivalent, hein. Il dit poétique de la relation, pour parler de la question de la politique de la relation. Donc je pense que cette question d'analyser en séparant, et peut-être une grille... qui va à contre-courant de ce que le film produit, mais aussi ce que les cultures de la Caraïbe produisent, c'est-à-dire une espèce d'emmêlement entre une langue poétique et une langue politique. Le sujet contemporain et le sujet, de l'histoire sont mêlés dans le film, puisque l'un des sujets du film, c'est quand même la question de comment les personnages sont hantés par l'histoire. Donc c'est pas l'histoire comme un objet qu'on regarde un passé, mais c'est plutôt l'histoire qu'on vit au présent. Ce qui est vraiment très différent, en fait, de dire un historien va mettre à distance l'histoire émotionnellement, parce que la science historique va s'imposer par une mise à distance, tandis que là, on est dans quelque chose où l'histoire, elle revient dans le corps, en fait, elle vient hanter, en quelque sorte, le corps. Donc toi qui as fait des études, justement, d'analyse littéraire, comment l'étude de la littérature caribéenne en Europe et peut-être aussi en Haïti, peut-être diverge de ce point de vue chez toi?
Mais c'est pour ça que j'avais parlé de perception aussi, parce que je pense que c'était une question de perception. Parce que nous, justement, on le voit différemment. Et je me souviens, pour répondre à cette question, j'avais parlé des liens. Parce que c'est trois dimensions-là que la personne a pu percevoir. Donc, ces liens, en fait, par exemple, pour s'ancrer dans l'époque contemporaine, on a dû passer par le passé historique. En même temps, on a dû passer aussi par cette poétique, en fait, qui est sur laquelle est fondé le film. Donc, je pense que c'est lié, en fait. C'est sûr que cette manie, entre guillemets, de catégoriser. Donc, c'est un peu, comment je peux dire, subjectif, et c'est un peu occidental aussi, je dirais. Donc,
je crois que c'est par là que tu voulais venir, Mamie. Peut-être que je me suis trompé.
Exactement. Merci de me... Je dirige.
Ben, au fait, nous étant haïtiens ou caribéens, notre imaginaire collectif est ancré par des émotions qui nous traversent. Ben, on ne sait même pas d'où ça vient. Tout comme des connaissances, ça nous est légué à travers notre ADN, à travers notre essence même. Et sans savoir vraiment. Où ça provient, c'est juste, c'est notre imaginaire collectif. Par exemple, les émotions qui nous traversent lors des répétitions, lors des travails à table, lors des tournages, c'est ben, on peut juste dire, tiens, voilà, on sent quelque chose sans le savoir. Tout comme peut-être on pourrait lire un truc et puis on sent que ça nous est prêt. On sent qu'on a, on connaît ça déjà, mais sans savoir où ça, ou sans savoir la source. Mais c'est à l'intérieur de nous, parce que c'est notre imaginaire collectif qui est imprégné par tout ça. Hein. Et c'est l'ensemble, c'est bien ces émotions-là qui nous traversent dans le film, tout comme quelle que soit la dimension que l'on peut prendre pour distinguer ou bien pour dire, bon, pour dissocier, mais on peut dire tout simplement c'est l'imaginaire collectif, c'est l'émotion collective qui nous traverse. Et c'est tout comme il y a, par exemple, Olivier, quand il nous rencontre pour la première fois et au fil du temps dans le travail, ben, il y a l'alchimie qui dégage entre nous. Et c'est bien ce qui nous donne l'esprit collectif, c'est bien ce qui nous donne l'esprit de l'ensemble. Et c'est à partir de là que l'ensemble s'est réellement constitué. Parce que là, l'énergie collective nous traverse.
Et bonsoir, et moi c'est Bijou Mackinson, mais on m'appelle de très souvent Bijou.
Ou Bijouterie.
Oui. Et moi, je ne vais pas vous répondre totalement. Je vais essayer de donner des éléments de réponse et à cette question. Et pour moi, il y a ça, ce qu'on appelle la connaissance intelligible et la connaissance sensorielle. Ce film, et c'est pas que ce film est fait. Ce film est fait pour la critique intelligible, mais avec des connaissances sensorielles. La majorité des personnes, et c'est pas nous avons des textes, mais c'est pas le texte qui nous guide réellement. C'est notre âme qui nous guide. C'est nos sentiments, nos vécus qui nous guident, et notre histoire qui nous guide. Et c'est pas totalement et les théories intelligibles avec les lectorats, les grands lectorats, avec les pour aller de les grands intellectuels, tout ça. Et puis c'est avec nos vécus, nos sens sensoriels qui nous guident, tout ça.
À distribuer la parole, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que c'est une question, on en a parlé à plusieurs reprises cette semaine aussi, puisque on a eu différentes occasions d'avoir des conversations. D'une certaine mesure, en fait, il y a dans le travail et dans l'analyse collective aussi du travail, parce qu'il y a ce qu'on produit, mais ce qu'on commence à partager aussi avec le temps, c'est les pratiques d'analyse de ce qu'on fait. C'est-à-dire pas simplement être ceux qui fabriquent des formes, mais aussi partager au fil des années, des rencontres, d'analyser et de trouver un vocabulaire d'analyse. Là, ça va rejoindre ce que tu dis. Je pense que là, à plusieurs reprises, on a aussi posé la question du sentir comme savoir. Et je me rappelle l'intervention que j'ai faite à Montpellier où la professeure qui est universitaire et qui se dit Olivier Marbeuf, il lit beaucoup. Et je lis, il nous parle du sentir comme savoir. Ça met un peu le bazar dans ce qu'on attend, parce qu'elle voulait effectivement que je cite. Elle dit, voilà, bon, les étudiants sont là, attendent Olivier que tu nous donnes un peu ton paysage intellectuel, tout ça. Et je suis revenu sur la question du sentir comme savoir. Je dis, moi, en fait, ce que je sais, c'est aussi des choses que je sens, parce qu'elles sont liées à notre vie aussi, y compris diasporique, dans l'obligation, comme dirait Fred Moten, le théoricien africain-américain, d'anticiper tout ce qui peut nous arriver. Et cette sur-anticipation crée aussi un développement du sentir qui est un savoir et qui, quelque part, va à l'encontre, encore une fois, des épistémologies européennes, de se dire le savoir repose sur la raison et la mise à distance des émotions. Attention, les émotions, c'est un truc qui nous trouble, et puis si on veut savoir, il faut mettre à distance les émotions pour avoir une espèce de capacité à savoir qui est solide. On sait que même en Europe, tout ça, ça bouge. Hein. Ça bouge beaucoup, de plein de manières différentes. Mais ça reste quand même un vrai sujet, hein, de se dire comment on sait les choses. Et on en a parlé avec l'équipe, c'est aussi l'idée de se dire comment on sait déjà les choses. C'est-à-dire comment le processus de savoir, c'est de savoir de nouveau. Il y a quelque chose qu'on sait déjà, en fait, mais qu'on va ressavoir, en quelque sorte, par une pratique, par une... Et ça, c'est important parce qu'il y a vraiment une espèce de combat un peu sur la scène intellectuelle entre un savoir constitué de l'ensemble de références, qui est légitime, et puis un savoir un peu, qui est un peu délégitimé, qui fait un peu sourire, où quelque part, les gens du sud global sont un peu regardants en disant « Ouais, tout ça, c'est bien gentil, mais... » Même si on commence à finalement cultiver maintenant comme on cultive dans le sud global, alors qu'on a détruit l'agriculture biologique, on est en train de se dire que c'est quand même cool de faire l'agriculture biologique, alors qu'on a détruit, on est en train de le faire, parce qu'on a détruit les pratiques animistes les Occidentaux sont des techno-animistes avec leur téléphone de malade. Je veux dire, voilà, on est animiste avec du lithium ici en Europe, quoi. Tu vois, on est accro au lithium, quoi. Donc on a un rapport à la matière quasiment où quand ton ordinateur s'arrête aujourd'hui, il fait un bug, tu lui dis non, ne fais pas ça quoi. T'es en train de parler à un truc qui est juste des circuits imprimés, mais tu lui parles, émotionnellement tu lui parles. C'est un rapport. Et donc quelque part, on est en train de redistribuer en fait ce que ça veut dire savoir. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, je trouve, dans la question de la Caraïbe, c'est que l'histoire même de la Caraïbe est une histoire de vie entravée. Et la question de l'esclavage, c'est l'impossibilité de vivre, et on en a parlé cet après-midi aussi, c'est la traversée de la mort pour vivre, c'est-à-dire l'anéantissement pour pouvoir vivre. Et ces expériences-là, elles reviennent vers l'Europe, ce que Césaire appelait l'effet retour. Elles reviennent vers l'Europe en disant maintenant, tout ce qu'on a traversé, c'est pas juste en l'avoir aussi pour nous, on est en train de revenir vers l'Europe avec quelque part un effet boomerang de cette situation. Et donc ça crée des nouvelles, évidemment, manières d'imaginer, de savoir. Et c'est vrai que quand on veut participer à une espèce d'élite intellectuelle, on doit toujours dire des choses qui conviennent à cette élite. Et là, c'est vrai que l'idée de pouvoir revendiquer du sentir, du déjà su, c'est comme une provocation intellectuelle, mais qui pour moi est vraiment une réalité, en fait, de nos vies. Et je trouve que ça aide, je trouve aussi, l'Occident à se désempoisonner de son propre rapport au savoir, qui est un rapport de violence, en fait. Parce que savoir en Europe, c'est d'abord nommer, et nommer, c'est créer de la propriété, et c'est pas créer du commun. Si tu reviens au sentir, tu peux créer des communs, si tu viens à la question du savoir, ce qu'on appelle propriétaire, c'est-à-dire, moi j'ai mis un nom là-dessus, est-ce que tu as lu Tout glissant? Non, j'ai pas lu Tout glissant, mais en fait, j'ai Tout glissant en moi, quoi. Et toi, tu peux aussi l'avoir en toi, mais par contre, tu peux pas l'avoir que pour toi. Donc cette capacité à savoir dans un mode agressif, qui est quand même, je trouve, la marque du néolibéralisme intellectuel, je trouve qu'on peut le redistribuer en disant l'important, c'est de le sentir en toi, et ça va aller. Voilà.
Si je peux rajouter quelque chose par rapport à l'animisme, au fait, je trouve ça super intéressant. Et là, tout à coup, je pense, en fait, j'essaie déjà de... Pas que j'essaie d'excuser quoi que ce soit par rapport à la raison, mais j'imagine que si à un moment ils ont voulu tout apporter à la raison qui soit intelligible et raisonnable, la raison, c'est aussi du fait que cette connaissance sensorielle quelque part peut-être, vu les siècles précédents bien sûr, par rapport à la religion et tout ce qui s'est passé avec le temps, c'est plutôt penché vers cela, puisque de toute façon, ça dépasse justement la raison et on sait sans savoir ou sans savoir justifier. Et c'est peut-être là l'exigence de la raison, mais le problème, c'est que de toute façon, c'est une tentative, ce ne serait jamais qu'une tentative. Et puisque la raison ou cette relation avec l'au-delà, si on veut, ou cette chose qu'ils appellent des fois aussi intuition, n'est pas toujours démonstrative, ils en ont fait l'apanage de la raison. Et pour ne pas tomber dans le piège de la religion telle qu'elle est transmise, en tout cas de par son historicité, machin, il faudrait peut-être refaire le chemin de la foi, bon, de la foi pour le dire comme ça, mais plutôt le chemin de cette spiritualité qui est autre, qui est encore à développer, au fait, qui est encore à développer, un espace qui est là mais qui a besoin d'être exploré et habité, voilà. Et c'est bien cette connaissance là qui, selon moi déjà, et je suis tout à fait d'accord, prime. Parce que c'est ce qui justifie toutes les choses qu'on ne sait pas justifier, tout simplement.
Bonsoir, je m'appelle Simon et je m'occupe de la R22 avec Mamie. Et pour continuer dans la discussion, si en quelque sorte les choses sont déjà là, donc le futur est déjà là et le futur vient à nous, je me demandais qu'est-ce qui s'est passé en revisionnant le film il y a 2 jours, parce qu'il s'est passé pas mal de choses, ça fait 5 ans que le film a été réalisé. Commencé à 5 ans, voilà. Il s'est passé pas mal de choses entre-temps et comme le film, il est construit aussi d'une certaine manière à ce que la composition quoi, est assez ouverte, en fait, pour réouvrir aussi de nouvelles dimensions dans son ressentir, sa compréhension. Et tout ça, je me demandais qu'est-ce que vous, ça vous fait là aujourd'hui de le revoir.
Et bonsoir. Moi, je suis aussi Jacques Casimir, membre de Living in the Dead Ensemble. Et bon, tout d'abord, c'est une nouvelle connaissance qu'on fait à nous-mêmes. Donc, vous regardez 5 ans de cela, dès le début du film, donc vous voyez une autre image de vous par rapport à aujourd'hui. Et la transformation que maintenant que nous avons eu depuis lors, là, c'est peut-être, pour le regard, c'est peut-être un autre aspect de notre savoir. Donc, on ne peut pas refaire le passé, on peut juste le questionner. Et déjà aussi, on ne savait pas si ça allait arriver jusqu'ici, on ne savait pas. Et le regard qu'on a sur ce film aujourd'hui, c'est pas un regard qu'on dit qu'on est arrivé à bout, mais c'est un regard continu. Donc, on voit que nous, aujourd'hui, on pourrait, si c'était aujourd'hui qu'on jouait Toussaint, on pourrait ne pas réussir ça et on pourrait réussir plus. Donc, c'est un peu le tâtonnement entre les deux. Donc, le temps ne s'arrête pas, mais le temps bouge aussi. Donc, pour le cerner, donc, on ne peut pas refaire le passé, on ne peut pas aussi deviner le futur. Donc, on vit l'instant présent pour nous mener là où on peut arriver au demain, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, notre regard par rapport avec le film, moi, je blaguais sur Bijou qui n'avait pas encore de cheveux, je blaguais sur Léo, et moi je me regarde sans cheveux là, tu vois, donc c'est une surprise pour moi. Donc, me voyant comme j'étais il y a 5 ans, c'est une grande surprise pour moi, en bougeant, en mimer, en jouant dans Toussaint l'ouverture, donc ça m'a fait chaud, okay? Je me redécouvre un peu, donc là il y a 5 ans.
Parce que Jacques Duvelat, il veut peut-être parler de... Parce qu'en fait, Living in an Ensemble, c'est un travail entièrement prémonitoire. Chaque projet qu'on fait, on prévoit l'avenir, comme
non. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis Chérissa Duvelat, membre de Living in the Dead, comédienne et actrice. Je voulais ajouter à ce que disait aussi, c'est vrai qu'en regardant le film, on se dit, bon, c'est vrai, on a eu des discussions, mais il y a des choses qu'on aimerait parler beaucoup plus là-dessus. Et c'est vrai que ça ne finit jamais. Même avec notre nouveau projet, Derek, on en parle encore de Macandal, on parle encore de Dessalines. C'est quelque chose qui n'en finit jamais, au fait. C'est ça, pour moi, le spirale. Il y a des boucles, mais il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Peut-être qu'on peut, dire que le texte et Monsieur Toussaint nous a peut-être servi d'ouverture, si on veut. Mais aussi, ça nous a projeté en quelque part qu'on n'attendait pas et qu'on redevient là-dessus après, même dans des nouveaux projets. C'est ça. Et puis, que Olivier disait que tous les travaux qu'on a faits sont comme des... prémonition, c'est vrai. Parce qu'on a beaucoup parlé du feu bien avant que les événements, bien avant le feu dans l'Amazonie et tout. Et on a...
Ça
quoi? Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On a beaucoup parlé des choses comme ça. Après,
le vaccin.
Justement, comme dans le film, quand on prend ouais, justement.
D'ailleurs, maintenant qu'on en parle, ça me fait quelque part, ça me fait peur. Voilà. C'est que la dernière fois qu'on était à Rennes, donc la première fois qu'on est venu à Rennes. Eh ben, c'est le moment où ils ont annoncé le confinement, au fait. Et donc, on a, voilà quoi. Donc, ça s'est passé ici. On a appris cela ici et on devait s'arranger à ce moment-là pour aller se confiner à Paris pour beaucoup de raisons. Mais bon, le fait est qu'on est revenu ici et qu'on est là pour le moment. Et donc, je me dis, si ça se trouve, dans les...
ça fait peur un peu. Ouais.
Et surtout l'arrivée du troisième dose. Hein, genre, ouais.
Bon, on est obligé de le prendre. C'est tout comme.
Et moi, je vais m'accrocher un petit peu aussi à la capacité sensorielle. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, dans cette capacité sensorielle, comment vous avez pu intégrer le vaudou, le vaudouisme dans vos pratiques ou dans le film L'Ouverture?
Excusez-moi. Avant de passer la parole à James, je vais pas dire qu'on a intégré le vaudou dans l'histoire. Je vais plutôt dire qu'on a extériorisé le vaudou parce que le vaudou, il est en nous. Même quand on refuse de reconnaître ça, mais le vaudou, il est là, il est partout en Haïti. Il est partout. Donc, du coup, on n'a pas intégré le vaudou. On a juste laissé libre cours au vaudou. Donc, on ne l'a pas intégré. Parce il est là. Nous sommes vaudous.
Laisser la place, au vaudou, c'est ça.
Déjà, il est là. Et on ne peut pas intégrer aussi, ce qui est déjà là, en fait. Donc, c'est
et
ça.
Et aussi, Edouard Glissant ne pouvait pas contourner ce rite culturel qu'est le vaudou à travers son livre. Et si vous voyez... est-ce que, pour moi, la question que je devrais poser, est-ce que Maman Jo, c'est pas... un personnage inventé, non, parce que j'ai jamais eu un livre là-dessus, mais c'est par rapport avec l'esprit, tu vois, la magnificence de cette culture, de cette culture qu'est le vaudou, qu'il a inventé, ce personnage. Donc, et pour hanter Toussaint, les fantômes, il parle beaucoup de fantômes, il parle beaucoup des morts aussi dans son livre. Donc, pour moi, et on ne peut pas écrire ce fameux un livre en essayant de contourner le vaudou. Ça, c'est quasiment impossible.
En tout cas, aussi, contrairement à toi, je ne crois pas que Maman Dio soit un personnage inventé par Edouard Glissant. Et pourquoi? Parce que dans les grandes histoires du monde, on a souvent tendance à fouler au pied l'importance des femmes dans les histoires. Moi, je pense que Edouard Glissant a fait paraître quelques noms de femmes dans les histoires. En fait, moi, souvent, je me suis dit, il paraît que les histoires, en fait, les grandes histoires soient écrites par les hommes, en fait. Par les hommes. En fait, c'est la question de la matrification. Il y a beaucoup de femmes qui écrivent. Il y a beaucoup de femmes qui font des œuvres. Mais ils sont peu apparus dans les histoires, en fait. Moi, je
parlais d'une caricature historique parce que je t'ai dit que j'ai fait des recherches et j'ai pas trouvé Maman Dio dans l'histoire. C'est, donc, pour moi, c'est un personnage inventé. Donc, par
en fait, je ne crois pas qu'il soit inventé, moi.
Inventé pour parler du rite, de la culture du vaudou parce que Maman Dio, c'est un peu une prêtresse vaudou dans... Edouard Glissant voulait invoquer dans le livre Monsieur Toussaint.
Mais
c'est une prêtresse
vaudou. Désolé, mon avancée ne s'allie pas au vaudou directement. En fait, je crois que mon avancée soit plus grand, en fait. Je parle des histoires du monde vraiment. C'est en fait mon avancée ne s'allie pas strictement au vaudou.
Ok. Et je vais essayer parce que je vois une bagarre entre aussi et Zach. Et je vais tenter de vous séparer comme ça. Et l'idée de aussi, c'est que c'est la sensibilité culturelle chez Edouard Glissant. La sensibilité culturelle par rapport au vaudou. Je comprends et ta position. Ta position, c'est pas le fait que tu veux parler de l'histoire officielle et les gens qui écrivent et à cette époque, c'est toujours les gars. Et quand on est en train d'écrire, on produit pour une machine, pour une industrie. Pour une industrie, cette industrie-là oriente la production. Et sûrement, on a certaines femmes de cette époque qui écrivent. Tu as tout à fait raison. Mais je pense aussi, c'est pas qu'il est contre ton opinion. Mais l'idée, et aussi veut faire sortir, c'est que c'est la sensibilité. Parce que le livre d'Edouard Glissant, c'est juste parler aux Français qui se disent, qui se militent pour la liberté. Pendant ce temps, à un certain moment, il a refusé la liberté d'Haïti. C'est ça. C'est pour parler aux Français. Pendant qu'il parlait aux Français, il prend la révolution d'Haïti comme prétexte pour s'exprimer. C'est ça que je comprends par rapport à aussi.
En fait, selon moi, même si le personnage de Maman Dio a été une invention de d'Edouard Glissant, c'est déjà bien. En fait tu parlais de la révolution française. Moi je me souviens d'un fait historique, la promulgation de la DUD, en fait, de la Déclaration universelle des droits humains en France, promulguée en 1780. En fait, je suis pas historien, mais quelqu'un peut m'aider. En fait, c'était promulgué à la fin du 18e siècle, 91. En fait, il y avait une dame qui s'appelle Olympe de Gouges, en fait. Olympe de Gouges qui a promulgué, en fait, un autre dude, mais il a mis de la citoyenne, en fait, de la femme et de la citoyenne. Malheureusement, on l'a guillotiné, en fait. C'était machiste. Et en fait, j'avance, c'était machiste. Et je me suis dit, si Edouard Glissant a pu avoir la capacité d'inventer deux femmes dans son livre, donc pour moi c'est en fait je ne dirais pas c'est un clash, mais pour moi c'est une réponse au machisme français, en fait.
Tout à fait d'accord. Tu as tout à fait raison. C'est juste pour indexer français et les Français et la faiblesse des actions des Français. C'est aussi pour prouver la limite des actions des Français, et aussi sans oublier déjà c'est la tâche qu'ils donnent au personnage dans le livre. Il ne faut pas écarter de ça. Voilà. Parce que oui, il a pris sa femme, comment il traite, il a créé et Suzanne existe bel et bien, c'est la façon qu'il a caricaturé Suzanne dans le livre.
C'est la façon
encore qu'il a caricaturé Maman Jo dans le livre. Et le titre qu'il a donné, lorsque je dis le titre, c'est peut-être la profession qu'elle a donnée à Suzanne ou à Maman Jo. Il ne faut pas écarter de ça, parce que je sais pas s'il y a vraiment des prêtresses vaudou qui existaient en France à cette époque. Ça, il faut voir ça. Si on fait une étude phénoménologique, ça c'est peut-être il a pris Maman Jo. Il a pris Maman Dio comme prétexte pour parler du vaudou comme élément culturel haïtien, comme cas, élément culturel haïtien.
En tout cas,
j'ai tout à fait.
À ta place, je ne dirais pas caricaturer, je dirais se faire exister, en fait. Parce que pour moi, dans ma tête d'haïtien, désolé, dans ma tête d'haïtien, je vois le mot caricature comme péjoratif. En fait, je ne crois pas, je doute qu'Edouard Glissant se fasse caricaturer des d'autres femmes, en fait. En fait, je pense qu'Edouard Glissant a fait exister des noms de femmes, même s'il n'existait pas vraiment. Mais il a fait exister des noms de femmes. Se dit caricaturer, ça devient problématique, ça cause problème, en fait.
Désolé, juste, je vais rajouter quelque chose. J'approuve l'idée que Suzanne ou que Maman Dio soit caricaturée, parce que déjà, des fois, on confond les deux. Et puis en même temps, c'est peut-être, puisqu'il n'y a pas beaucoup de personnages féminins dans la pièce, des entités plutôt que des personnages, au fait. Parce qu'à travers, d'ailleurs, c'est ce qui se fait dans le film, et là, c'est plus concret, au fait. C'est que des fois, à la fois Dieu veut là, Cynthia, déjà échangent leurs personnages, et puis en même temps, multiplient la portée de Maman Dio ou de Suzanne, au fait. Ce qui fait que c'est plutôt des entités, donc c'est caricaturé d'une certaine manière, mais c'est pas péjoratif, au fait. C'est tant mieux.
Et ensuite, leur corps représente les deux, tu vois. Donc, il n'y a pas que Dieu veut là comme Maman Dio et Cynthia comme Suzanne Toussaint. Il y a... Ouais, voilà. Non, mais je t'ai dit, là, c'est cette forme de caricature là, et dont parle et Bijou et Léo. Donc, et c'est... Moi, je te parle historiquement, je ne rentre pas dans une cause sexiste, machiste ou quoi, whatever. Donc, moi, je parle historiquement. Je dis que moi, j'ai bon cherché et je n'ai pas trouvé ce personnage, Maman Dio.
Ah ben, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que si Glissant voulait faire apparaître le côté vaudou dans le texte, il utilise bien Marcandale et Makaya pour parler du vaudou. Moi, je pense qu'il a utilisé et Maman Dio... Parce que personne ne connaît l'histoire de Cécile Fatima. Personne ne connaît vraiment l'histoire de Marie-Jeanne Lamartinière. Donc moi, je comprends et la présence de Maman Dio plus dans ce sens-là, au fait. Parce que s'il voulait faire apparaître le vaudou, Marcandale et Makaya, ça suffit.
C'est l'exemple.
C'est l'exemple. Tout le monde connaît Madame et Suzanne Toussaint, c'est la femme de Toussaint. Et c'est évident parce que... Justement, mais c'est... Attends, j'ai perdu. Parce que Henriette de Saint-Marc, eux aussi pratiquaient le vaudou. Cécile Fatima pratiquait aussi le vaudou. OK, on peut très bien utiliser et Maman Dio comme exemple, mais s'il voulait vraiment faire apparaître le vaudou, Makandale et Makaya, ça suffit. Makandale seulement suffit.
Parce qu'on a remarqué dans la pièce de Toussaint...
La question cruciale, pourquoi faire apparaître le nom, en fait, pourquoi faire apparaître le vaudou par des noms de femmes, ça aussi en est devenu problématique.
Parce que de toute façon, les prêtres... Parce que à l'époque...
Une fille ne pouvait pas porter la culture, c'est ce que tu insinues.
Ouais, c'est vrai, mais il faut...
C'est ce que tu viens de dire.
Ah
bon.
Non, mais je remets en
question. Okay. Quand on va voir un historien, on lui pose des questions sur les femmes et il vous dit l'histoire est une affaire d'hommes. Si l'histoire est une affaire d'hommes, pourquoi ils perdaient leur temps à parler de l'histoire, à parler du vaudou qui est un aspect vraiment vraiment important de la révolution haïtienne.
Voilà, c'est ce qui est intéressant que Glissant.
Non.
A mis Maman Dio comme une prêtresse vaudou dans son livre.
Non. L'histoire est une affaire d'hommes.
Excuse-moi.
Donc, si on devait parler du vaudou, jamais on allait prendre une femme pour représenter le vaudou dans l'histoire.
Mais elle représente une prêtresse vaudou dans son livre.
Qui ça?
Maman Dio. Moi, j'ai lu. Bon. Bah, tu l'as lu aussi. Maman Dio était...
Je voulais ajouter une chose, c'est que déjà, en fait, la figure de Maman Dio, on peut dire la figure, parce que dans le texte de Glissant, il y a des personnages réels, historiques, et puis des figures, vient probablement de Maman de l'eau, qui est donc cette figure africaines, afro-diasporiques qu'on retrouve sur les, en Afrique de l'Ouest, au Brésil et dans le voodoo, qui est vraiment la, la figure de l'eau et, de la, et du lien. Au moment. Et je pense qu'il... Oui, mais peut-être qu'il était aussi dans une volonté de ne pas exactement prendre cette figure de maman de l'eau. Et là, je rejoins Diavela par autre part, pour ne pas fixer justement le, les personnages féminins en laissant la possibilité que ça représente quelque chose de plus vaste qu'une seule personne. En gros, dans le livre, les hommes représentent une seule personne et peut-être pas les femmes, en fait. Dans ce cas-là, il y a quelque chose qui a une possibilité d'imaginer qui représenterait toutes les femmes qui ont participé secrètement à la révolution, qui ont fait des luttes, qui ont fait du poison, qui ont fait... Ça, c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait quelque chose d'un peu... En tout cas, c'est un peu ça qu'on s'est demandé, quoi. Si certains personnages ne sont pas là pour représenter tous ceux qui n'ont pas été inscrits dans l'histoire parce qu'on n'a pas... On n'a pas assez d'informations, on n'a pas assez de... Donc moi, là, je la suis comme un personnage qui est un peu plus vaste que quelqu'un de précis. Donc effectivement, elle n'existe pas historiquement parce qu'elle est probablement... comme un espèce d'ensemble de femmes qui ont été dans la lutte. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même aussi, et ça c'est important dans cette idée un peu potomitante, parce que dans le film de Glissant, pour le coup, dans le livre de Glissant et dans la pièce, il y a vraiment l'idée du potomitant, donc d'une centralité, alors qu'il y a un débat énorme aux Antilles sur la femme potomitant, mais là on est en 1960, et puis c'est un peu la figure de, la, de celle qui tient, comment dire, le foyer. Elle s'appelle quand même maman comme nom, et on sait qu'aux Antilles, on donne le nom à maman, pas forcément à sa mère. C'est compliqué pour Freud, à mon avis, mais en tout cas, à tous ceux qui soutiennent, quoi, qui sont les piliers du foyer élargi, donc c'est pas que sa mère. Et donc, il y a quand même aussi tous les fantômes qui viennent hanter tout ça à l'ouverture dans la pièce. Il y a des fantômes historiques, des soldats, des rebelles, des aides, et puis il y a quand même la figure de ce antillaise un peu ancestrale, qui est un peu une figure d'une mère, en fait, qui vient lui... Parce qu'en fait, dans la pièce au départ, il est sur son lit de mort, sur sa chaise de mort, c'est même pas un lit. Il est en train de mourir dans le fort de Joux de froid. Et toute l'histoire vient le réenvahir sous forme de fantômes. Et c'est comme ça que Glissant le met en scène dans la pièce à l'origine. C'est des fantômes qui viennent tous à leur tour régler leur compte avec l'ouverture. Et c'est vrai que là, ce qui est intéressant avec Glissant, c'est qu'au fond, il y a quand même une pièce qui est anti-héroïque déjà à l'époque. Et donc, je trouve qu'elle est en avance sur son temps. Parce qu'au contraire, ce n'est pas tant une pièce qui prend Toussaint comme un héros, mais plutôt Toussaint comme un héros tragique. C'est-à-dire que tout le monde va se mettre d'accord sur son dos, en fait. C'est-à-dire que va se recomposer une communauté, comme là on est en débattant, parce que lui, il est celui qu'on accuse de tous les torts. Parce qu'il a agi, en fait. Il a essayé d'agir, il a échoué. Et donc chacun vient lui reprocher quelque chose. Mais n'empêche, cette veillée-là recompose une société, la mémoire même renaît du fait que lui, il assume d'être ce que Glissant... et je pense que Glissant lui-même se projette dans la figure du héros tragique. C'est-à-dire que finalement... Tu as raison, parce qu'en fait, tu parviens à ce que tout le monde se rend compte autour de toi. Donc, tu as tort aussi. Quoi. Tu échoues en provoquant ce que tu veux faire. C'est-à-dire, tu dois être celui qui met tout le monde d'accord sur ton dos, en quelque sorte. Et je pense que Glissant, dans son parcours entre les Antilles et la France, il va se retrouver à être cette espèce de héros tragique où les Antillais vont finir par ne pas aimer Glissant. Parce qu'il le trouve trop français, les Français le trouvent trop antillais, et qui va toujours circuler en espèce dans... Et c'est vrai que Toussaint, c'est aussi quelqu'un qui a un rapport extrêmement intime avec Napoléon. Il va lui écrire je ne sais pas combien de centaines de lettres, en fait, qui sont aux archives nationales, et qui veut le convaincre jusqu'au bout que la révolution est bien, c'est une bonne chose pour la France. Et ça, on l'oublie aussi. Et c'est ce qu'on lui reproche, hein, par rapport à de Salines, qui va être un révolutionnaire beaucoup plus radical, et qui, je pense qu'il le fallait aussi. Et c'est peut-être les deux phases de la révolution, hein. Presque une phase réformiste et une phase révolutionnaire, quoi. Il y en a un qui sente quand même jusqu'au bout l'ouverture, il tente de négocier avec Napoléon. Et là où des gens lui donnent raison, c'est qu'ils disent le futur d'Haïti lui donne raison, parce que ne pas avoir négocié avec les Français fait que la vengeance et la dette vont venir tuer de Salines. Donc ça, il y a aussi un... Comme on dit, cet après-midi, quelqu'un disait il y a deux écoles pour l'ouverture, c'est ça les deux écoles. Certains disent, il a trop négocié avec Napoléon, c'est pas un héros pur, mais il dit, si on se met les Français à dos, en fait, ils vont nous le faire payer, et il a pas tort. Mais n'empêche, une révolution se mène aussi avec des radicalités. Donc il y a, c'est presque une notion révolutionnaire qui est valable aujourd'hui, hein, entre une victoire radicale, mais comment tu payes ta victoire radicale, et une victoire négociée qui peut être plus durable, mais peut-être moins radicale. Parce que c'est vrai que, par exemple, de Saline était beaucoup plus intéressé par l'égalité radicale avec tous les Noirs de l'île, avec les anciens esclaves. On ne peut pas dire que l'ouverture soit complètement, en fait, sur cette ligne-là. Il est dans une ligne un peu différente.
Oui, je suis tout à fait d'accord, mais en même temps, je dirais encore aujourd'hui, il y a les Toussaintiens, si on veut, qui sont encore en Haïti et qui maintiennent le pays dans l'état actuel, parce qu'au fait, ce sont pour la plupart des transnationaux. D'ailleurs, c'est bien le cas, au fait, c'est plutôt des gens qui ne veulent pas tout à fait perdre leurs intérêts. C'est ce qui explique la dette aussi. Et puis qui sont encore là et qui accumulent du capital, et c'est les chefs d'entreprise, c'est quelques familles au fait. Et donc c'est peut-être transversé quelque part, mais c'est ce même sentiment de ne pas de comment dire de crainte de la solitude au fait, voilà, de ne pas se retrouver seul, puisque de toute façon a priori on n'a pas les moyens de pouvoir nous-mêmes nous en sortir. Et donc, il faut à tout prix, sauf que, bien sûr, s'il n'y a qu'eux-mêmes qui en bénéficient, au fait, alors que la majorité, le peuple en soi, est toujours dans la merde, tout simplement. Et donc, je ne sais pas, ça se débat et ça se comprend, mais en même temps, le fait est que l'histoire est faite comme ça, et donc, à quoi ça sert, finalement, je me demande de poser des questions sur la stratégie de Toussaint Louverture, que je trouve très diplomatique d'ailleurs. Et puis en même temps, c'est quand même le seul à avoir osé s'adresser à Napoléon sur ce ton quand même. Et c'est peut-être ça qui a causé sa mort quelque part. Mais en même temps, il y a d'autres histoires aussi, parce qu'il y a des choses qui restent invisibles et que les initiés savent très bien, et que moi je ne sais pas beaucoup, puisque de toute façon je ne suis pas initié, mais en tout cas j'en ai entendu parler, et bien sûr ça reste qu'une tradition cachée, orale et transmise individuellement. Et donc mais bon, il faut se contenter de ce qu'on a comme chose tangible pour discuter de ces choses. Et tout ça pour dire que quand même, il y a ces gens qui, quelque part, maintiennent cette relation, ce rapport qu'avait Toussaint Louverture avec la transatlantique, et qui fait que, quelque part, quand même, Haïti est toujours dans l'état actuel. Sauf que, bien sûr, ce ne sont pas Toussaint Louverture. Ça, c'est sûr.
Pour revenir à la question initiale, la place du vaudou. La place du vaudou dans le film. Mais avant tout, je crois que je vais juste parler un peu sur l'évolution du film, qui c'était la question précédente. Et même par rapport avec les images, tu vas voir, même la qualité. Les images évoluent dans le film, les personnages, les acteurs, l'histoire, tout évolue et se reconstitue, d'où la question du spiral. Et puis, pour parler du vaudou dans le film, mais tout comme la femme dans la pensée de Glissant est un potomitan, et on ne peut pas voir la révolution haïtienne sans voir le vaudou. Et je crois que c'est dans cette même démarche que se trouve Glissant. Et pour parler de la révolution haïtienne, sans mentionner le vaudou. Au fait, parler du, et comme venaient de dire les filles, voir Macandal, Macaya comme des figures emblématiques du vaudou. Mais non, mais ils sont juste des révolutionnaires qui composent des poisons, des trucs du genre. Et puis mais la figure emblématique du vaudou se repose sur les femmes, sur les femmes à part de lors de la cérémonie de lors du congrès de Bois Caïman qui ben c'était un congrès politique avant tout et après qui se traduit comme quelque chose de religieux parce que on va faire des interpellations et pour appeler les esprits et en 1791 dans la nuit 13 au 14 d'août 1791 et qui va amorcer la révolution, qui va amorcer la guerre de l'indépendance 13 ans après. Et ben là, à part de là qu'on a parlé de Bookman comme le prêtre qui a présidé la cérémonie, et sans voir, ben, on ne peut pas parler du vaudou dans la révolution haïtienne sans voir Cécile Fatima, parce que on parle de 1791 comme le fer de lance de la de la guerre de l'indépendance, mais regardez la place de Cécile Fatima dans cette grande cérémonie. C'est elle qui, Bookman a présidé la cérémonie, mais tout au niveau sacrificiel, c'est elle, tout au niveau des démarches, c'est elle qui a mené ça. Et on ne peut pas parler du vaudou dans la révolution haïtienne sans voir ces femmes. Il y a pas mal, il y a beaucoup de femmes sans voir Grand Tour. Il y a beaucoup, vraiment beaucoup de femmes. Et tout au long l'histoire de la société haïtienne, vous allez voir l'importance de la femme comme étant potomitan, comme revendique Édouard Glissant, et tout comme dans des sociétés vaudouesques, les femmes sont toujours considérées comme des potomitans. Et l'une des choses encore, le vaudou, ben, tout le temps, quand on fait des débats sur l'égalité entre les hommes et les femmes, ben moi que je dis mais non, dans le vaudou, cette question-là, c'est déjà passé. Parce que dans le vaudou, c'est déjà résolu. Parce que dans le vaudou, ben, dans le vaudou, quelle que soit la personne que t'es, t'as ta place. Même sur la question de LGBTQ, ben on parle maintenant, mais dans le vaudou c'est déjà résolu, ben parce que on a pleinement notre liberté à vivre notre vie de la manière dont cela nous sent, même notre orientation sexuelle. Ben, dans le vaudou depuis la nuit des temps, on a déjà résolu ça, même quand la société occidentale, ouais, ben la société occidentale pourrait beau s'applaudir pour dire que ben ils sont venus avec les doigts de l'homme, mais non, dans le vaudou c'est déjà résolu depuis la nuit des temps,
depuis des siècles.
C'est l'égalité entre les hommes et les femmes, ça est déjà résolu. Bon, bref,
ouais, mais tu pourrais parler quand même de comment cette peut-être communauté est ostracisée aujourd'hui parce que elle est aussi maltraitée par la société haïtienne.
Une mission,
ben puisqu'en réalité on est sous la joue de la domination occidentale qui est ben comme bras de fer l'Église, la chrétienté, et puis ben il faut minimiser, il faut éradiquer la culture de l'autre pour se faire exister.
Laisse-moi ajouter juste quelque chose, James, et je te donne la parole, deux mots. Et malgré les choses que tu vois, comme vient de dire James, que je peux dire que le christianisme a apporté avec la supériorité des hommes sur beaucoup de sociétés, même là encore dans le vaudou, jusqu'à date c'est la femme qui tient la maison, ce sont elles qui font tout là. Donc là il y a déjà une grande communauté des femmes qui prend, tu vois, comment je peux dire ça, qui contrôle un peu des choses. Et si vous allez en Haïti, moi je vous invite, et allez dans les marchés, vous voyez, c'est 90% de femmes. Donc c'est eux qui luttent, c'est eux qui limitent. Donc l'économie de la société, c'est ça se repose sur les dos de la femme. Donc
Ouais. Ouais. Bah, au fait, pour continuer, bah, au fait, pour au fait, pour continuer et pour continuer, pour se faire exister, il faut que la société occidentale éradique la culture de l'autre. Ben, c'est la loi du plus fort. Ben, il faut s'ériger en maître et seigneur. Et puis, pour écraser l'autre, ben, c'est ce qu'on a fait avec le vaudou, qui est le pilier de la culture haïtienne, qui est le pilier de la société haïtienne. Ben, ils ont dit, ben, OK, ben, si le vaudou a permis à ce peuple-là de prendre leur indépendance, alors il faut éradiquer le vaudou, il faut les diviser, ben, parce que nous, la société haïtienne, dans la colonie, ils ont dit, OK, tiens, voilà, on a deux armes, deux outils à notre possibilité. Premièrement, il y a une barrière linguistique, alors il faut créer une langue. Ben, les esclaves, ils créent le créole comme outil de communication. Après, ben, ils ont dit, OK, tiens, voilà qu'on est dans la colonie, on sort avec nos parents sortent de l'Afrique avec leur bagage culturel, qui est le vaudou, et puis avec les frottements, les coutoiements des Européens, ben, on a acquérir une autre forme de mystique. Et puis, avec le marronnage, on a acquérir une forme encore de culture avec les Taïnos, les premiers habitants qui étaient dans l'île. Et puis là, ils forment à partir de ce trio-là, ils forment le vaudou haïtien. Et ils se sont dit, ben, tiens, voilà, on a deux armes. Et c'est à partir de ces deux armes-là, de ces deux outils, qu'on va mener notre indépendance. Et l'Occident, il dit, ben, OK, ben, on a pris un premier coup, on ne va pas nous se le faire prendre encore. Et puis, ils ont divisé, crasé, ils ont financé le christianisme, les missionnaires, ils ont financé l'insécurité, ils ont financé la politique. Ben, ils intègrent dans tout. Et puis, juste pour garder le pays en captivité, juste pour faire ce que nous disons. Avant, sur la question de faire Haïti comme étant que la République des poubelles, et ben, comme un exemple de déchéance dans la Caraïbe, alors ils ont réussi. Mais le vaudou et le créole restent toujours comme les outils de résistance. Par exemple, on vit d'une société qu'on dit que on est bilingue. Et regarde les statistiques, moins que 10% de la population parle le français. Et on est bilingue. L'administration publique se fait en français. Tout, l'école se fait en français. On n'arrive pas vraiment à parler le français. Parce qu'à la maison, on parle le créole. Et puis dans la rue, on parle le créole uniquement chez les frères et les sœurs. Ben, parce que l'école dirigé par les frères de l'instruction chrétienne, ben, l'organisme catholique qui mène l'école, et après ça, vient les protestants, et puis tout, ben, on n'arrive pas vraiment à parler le français, malgré l'école se fait en français. À la maison, on parle le créole, dans la rue, on parle le créole, et puis on garde toujours ce sentiment-là. C'est d'où la question de la connaissance sensorielle. Parce qu'à travers nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, on sait bien que dans nos gènes, c'est le créole. Dans nos gènes, c'est le vaudou. Et on garde toujours ces traces révolutionnaires en nous. Inconsciemment ou consciemment, on le garde toujours. Et pour revenir à la question initiale, la place du vaudou, et ben, je crois que ça s'est vu parvenu, ben, étant donné que moi, et ben, je pratique le vaudou, et puis ben, je fais partie du projet, et puis je me suis dit, bon, voir, étant donné que moi je milite pour le créole et le vaudou, et puis je me suis dit, OK, ben, là, comme on travaille déjà sur le créole, ben fallait unir le vaudou aussi. Et puis dans le montage pour la pièce de théâtre, et puis on dit ben tiens voilà, voir pour débuter la pièce, il faut faire des cérémonies, et puis on dit ok voilà c'est chouette, et puis on a filmé des cérémonies ben juste dans le film, et puis étonnamment je chantais une chanson Soleo Atibon Iboloko Sole, ben mon frère là il me dit ben tiens voilà, ben dans mon pays ça c'est une divinité pour purifier la main, et puis étonnamment, inconsciemment, tu vois, c'est la question de la connaissance sensorielle partagée. Étonnamment, ben je traçais une figure, et puis en chantant, ben ce n'est même pas la chanson que je chantais, et puis dans le montage on a pris la chanson que je chantais dans une scène avant, et puis on a pris dans le montage, on a pris cette chanson là avec la partie de l'image où je saluer les éléments avec une farine, et puis la chanson est tombée à pic. Et puis ben lui il a dit ben voilà, ça c'est la divinité pour purifier la main, pour laver la main. Dit, ah bon, et pourtant c'est bien le geste que j'ai fait, et puis ben inconsciemment. Et c'est à partir de là que la place du vaudou commence petit à petit, et puis jusqu'à ce que, ben, étant donné qu'on est vaudouisant, inconsciemment ou consciemment, culturellement parlant, tous les Haïtiens sont des vaudouisants, et puis l'âme du vaudou nous traverse. Et surtout, on parlait de l'histoire, et bien, étant donné qu'on incarne des figures historiques qui sont des vaudouisants, alors l'esprit du vaudou nous traverse. Et tout au long du film, tout au long même ce nouveau projet, l'esprit du vaudou nous traverse, parce que partout où l'on passe, partout où l'on est, on garde toujours nos traces. Car ça se trouve dans nos veines.
Merci James. Franchement, merci pour tous ces propos. Et nous sommes sur la dernière trajectoire, mais qui semble s'ouvrir sur d'autres questions qu'on va se perdre, j'imagine. Mais la question est la suivante. Entre l'ouverture au film, l'ouverture, et The Week, la prochaine performance, y a-t-il un point de neutralité ou de convergence?
Pour moi, c'est... Juste pour faire l'intellectualité, c'est... on peut dire neutralité, mais ça n'existe pas vraiment. C'est juste une continuité de ouverture. Déjà, ouverture, c'est juste ouvrir la porte pour travailler, et le travail, c'est The Week. Et déjà, nous sommes dans la spirale. Spirale, c'est un travail qui commence. Ça commence. On ne sait pas vraiment où ça commence. On ne sait pas vraiment où ça va terminer. Mais on peut, et pour moi, ouverture, c'était une pause. Et puis, on est sur la route, on continue notre travail avec The Week. Et The Week, c'est ça, peut-être une deuxième pause. Et puis, on va ouvrir.
Et c'est quoi The Week? Parce que...
The Week, c'est un prétexte. The Week, je pense que je me dirais, ça se dit, je l'ai dit tout seul, moi. Je pense que The Week, le titre The Week, Olivier connaît bien le marché et il a choisi le titre en anglais. Parce que moi, et The Week, et c'est la veillée. C'est la veillée. La veillée chez nous, en Haïti, c'est à la veille d'un enterrement, c'est à la veille d'un enterrement d'une personne, pour honorer ou bien pour commémorer la personne, on organise une veillée. Dans cette veillée, c'est ouvert pour toutes sortes des histoires, et que ce soit inventé, que ce soit vrai, et ça donne la possibilité pour faire pour faire blaguer et pour faire rire les gens et pour écarter de la tristesse, tout ça. Et The Week et pour The Living and the Dead, c'est un prétexte pour non seulement pour faire rire et pour faire passer des messages et pour parler des choses qui traversent le monde. Qui traversent le monde et soit et avec les gens qui se disent bon, nous sommes là pour traiter des sujets ou bien pour résoudre l'ensemble des problèmes. Et les problèmes restent encore. Pendant ce temps, ils disent bon, nous sommes là pour traiter les sujets, tandis que les problèmes restent. Et The Week est soit. Indexer le problème, c'est juste pour montrer. Donc, il existe encore. Il y a ça. Pourquoi c'est juste et orienter le questionnement, tout ça, et en gros.
Okay. Oui, peut-être pour rajouter sur cette question de continuité. En fait, aussi à travers The Week, on s'offre la possibilité. Donc, c'est une pièce de théâtre qui est basée sur la forme de la veillée. C'est pas tant que ça m'intéresse que ce soit en anglais, mais j'aime bien les titres qui ont aussi une sonorité, et alors qu'on va pas directement sur le sens, parce qu'on peut écouter The Week comme un mot. Pendant pas mal d'années, j'ai dirigé un lieu qui s'appelait Chiasma. C'était pas tant pour qu'on traduise ce que ça veut dire, que juste ça sonne comme un mot qui peut exister dans plusieurs langues, comme une espèce de sonorité, une espèce de motif, quoi. Mais en tout cas, c'est une forme de veillée. Ce qui me semblait intéressant, c'est qu'avec la veillée, on peut relire aussi Ouverture autrement. Parce qu'Ouverture, c'est un espèce de film sur lequel on peut revenir sans cesse. Et en fait, l'un des aspects que moi je trouve qu'on avait peu exploré, en tout cas moi je l'ai repensé à travers ce qu'on a fait dans The Week, c'est qu'en réalité, Édouard Glissant, qui est donc martiniquais, va regarder l'histoire d'Haïti. Et donc dès lors qu'en fait quelqu'un qui est d'un espace regarde une histoire d'un autre espace qui est important, c'est une ouverture de cette histoire vers le monde en fait. C'est une possibilité de parler du monde. Je pense qu'Édouard Glissant, il veut parler de l'idée de révolution, du besoin même d'une idée de révolution pour des gens qui sont opprimés, etc. Et il prend Haïti comme un catalyseur, mais il veut ouvrir beaucoup plus largement cette question-là. Et je trouve que sur The Week, on est passé, je dirais, du film qu'on a fait Ouverture, qui parle d'Haïti, avec The Week, la possibilité de parler depuis Haïti du monde. Un petit peu comme Malcolm Ferdinand avec son Écologie décoloniale. Malcolm qu'on va rencontrer à Brest bientôt avec la présentation de The Week. Entre les deux représentations, on a eu la chance que le festival, via l'artiste associé Betty Chomanga, puisse inviter Malcolm Ferdinand. Moi, c'est quelqu'un que je connais assez bien. Dans son travail et puis personnellement. Et je trouvais que ça, c'était un choix très pertinent. Parce qu'en fait, la proposition de Malcolm Ferdinand de dire on ne va pas non plus systématiquement subir la question de la description de la crise écologique globale à partir de la perspective occidentale. Mais on doit pouvoir produire des perspectives sur la crise globale qui prennent un autre point de départ et donc qui proposent de la regarder autrement. Et avec Malcolm Ferdinand, prend Haïti, ce qu'il appelle l'irruption d'Haïti, comme un lieu à partir duquel on peut penser le début de la crise écologique globale dans laquelle on est. Donc en repensant la question de la plantation et du plantationocène, en repensant en fait notre économie, non pas en fait comme Bruno Latour et d'autres diraient un anthropocène, qui donne l'impression que c'est le règne de l'humanité qui a détruit la planète, Malcolm Ferdinand dit non, c'est des manières d'habiter le monde qui ont détruit la planète, dont les humains peuvent se débarrasser. Parce que sinon, il y a l'idée que l'humanité entière a détruit la planète, qui, quand on va voir les Indiens en Amazonie, ils vont faire la gueule, quoi. Ils vont dire, je suis désolé, nous, on n'a pas arrêté de produire du monde parce qu'on est le monde nous-mêmes. Donc, cette épistémologie de la destruction, elle vient d'un endroit précis. Et ça, en fait, Malcolm Ferdinand dit, nous, depuis les Antilles, on peut dire que non, c'est la manière d'habiter le monde qu'on a découvert avec la plantation, qui est une manière toxique d'habiter le monde en détruisant tout ce qu'il y a autour, en créant ce qu'il appelle les terres habituées. Et les terres habituées, c'est les terres habitables par l'homme, sachant que la démarche qui commence avec la plantation, c'est de rendre le monde supposément habitable pour l'homme, tous les mondes. Donc en détruisant les forêts, en détruisant les espèces sauvages, en détruisant tout ce qui peut menacer une certaine manière d'habiter. Mais auparavant, les natifs dans ces îles-là habitaient aussi. ils cohabitaient avec d'autres, donc ils avaient une autre manière d'habiter. Et donc c'est vrai que ça m'intéressait parce qu'avec Zoé, il y avait la question de se dire, moi l'une des idées, il y a plein de choses qu'on traversait le projet, des rencontres qu'on a fait à différents endroits, Clichy-Montfermeil, on a voyagé, donc plein de gens qu'on a rencontrés, on a des gens comme Kader Atia, avec qui on a passé du temps, des gens avec qui on a échangé, mais il y avait une chose moi qui était au tout début, une petite intuition quand on a commencé à travailler là-dessus, c'était quand Donald Trump avait parlé de shithole countries, donc les pays de merde dont on ne veut pas chez nous. Et donc lui pouvait déclarer qu'il y a des pays de merde qu'il ne voulait pas, comme si lui, le monde lui appartenait et que les autres, ils n'existaient pas. Et c'est quelque part, c'est la The Wreck, le point de départ, c'est quand même le point de vue des shithole countries sur qui est Donald Trump, qui est Poutine, qui est Macron, que font ces gens au monde et quel compte on leur... La demande à rendre des comptes qui peuvent leur être adressés depuis la perspective de ces pays-là, mais aussi avec de la poétique. Mais en tout cas, voilà, il y avait l'idée que, en tout cas, la question de parler du monde contemporain était aussi une question de perspective, et que si on rentrait dans la perspective dominante de l'Occident, on a l'impression qu'il n'y avait aucune solution, que c'était une espèce d'impasse, qu'on n'arrivait pas à trouver de solution, et c'est un rapport de désespoir qu'on vit quand même dans cette partie du monde. C'est la fin, on a déconné... Et certains disent, ben dans ce cas-là, continuons à déconner jusqu'à la fin. Donc ça, c'est la proposition dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution, donc franchement, on y va, c'est open bar, quoi. C'est bon, franchement, c'est foutu, donc autant le faire, comme dirait M. Roussel, en bon vivant. Tu vois, on a tout détruit, donc on peut faisons de la chasse, de la pêche et mangeons une bonne viande avec du vin, de toute façon, c'est niqué. Donc il y a un peu une proposition comme ça, c'est un peu le désespoir heureux comme ça, quoi. Et puis à l'inverse, en fait, il y a des gens qui rappellent que soigner le monde, ça existe, qu'on a aussi, on n'a pas fait que le détruire, en fait, ça dépend en fait quelle société on regarde et comment on regarde les choses. Et je trouve qu'avec The Wreck, il y avait cette proposition-là qui était comme glissant, faire de la révolution haïtienne un motif mondial, faire de la possibilité, ben là il y a une espèce de possibilité avec The Wreck de faire de ce point de vue caribéen un point de vue sur le monde qui est légitime en fait. Et pas toujours subir le point de vue, mais dire mais nous aussi on est le monde et nous aussi on pense le monde, nous aussi on regarde le monde et nous aussi on demande des comptes. Donc la pièce demande aussi des comptes aux grands de ce monde et produit je pense aussi un imaginaire un peu de vitalité parce que comme disait Bijou, c'est quand même aussi cet rapport très spécifique à la mort dans la Caraïbe où bon, le temps du deuil est beaucoup plus long qu'ici. On passe beaucoup plus de temps dans le deuil parce que nous, on ne sait plus tellement faire le deuil en Europe. On a perdu un truc qu'on avait aussi ici, hein, mais qu'on a perdu. Et donc, on passe beaucoup plus de temps dans le deuil et effectivement, on passe beaucoup plus de temps avec les morts. D'ailleurs, le titre de l'ensemble, c'est The Living and the Dead Ensemble. C'est aussi un espèce d'ensemble composé par les morts et les vivants. Donc, on passe beaucoup plus de temps avec les morts. Et donc, la veillée, c'est aussi passer du temps avec les morts, mais pas dans un imaginaire négatif. Donc, c'est une proposition aussi de se ressaisir de nos morts comme de nos alliés, en fait, pour affronter ce qu'on a devant nous. Et donc là, c'est une proposition caribéenne du rapport à la mort qui est presque un peu anti-Welbeckienne, si on veut. Quoi. C'est non, mais pour dire ça, c'est le côté désespérant de la mort, l'espèce de catholicisme triste. Là, tu dis, en fait, on meurt, mais on participe à un même matériau qui est notre décomposition collective. Et cette matière-là est matière vivante, en fait.
Excusez-moi. J'allais dire, en suivant un cours, le professeur m'a projeté sur son écran une photo d'un petit garçon avec son petit frère qui est mort. C'était au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et les soldats qui lui arrivaient disaient, il dépose le cadavre. Et c'est un peu lourd. Il a dit, bon, c'est mon frère. Ne peut pas être loup pour moi. C'est pareil pour nous dans l'ouverture. Et nos morts, ce sont nos morts. Nos morts ne sont pas loups pour nous. Nous voulons juste habiter avec nos morts.
Et au fait, tout comme Doric, la veillée, et pour nous, c'est donner la parole ou sans voix, c'est donner la parole à toute personne parce que la parole est circulaire, la parole est ouverte et c'est quelle que soit la personne qui t'est, que ben, lors de la vie chez nous, et ben, culturellement parlant, tu as le droit de parler, tu as le droit de dire et tout ce que tu veux. Et souvent, et dans la veillée, ben, et dans la cour, et ben, on fait du thé, gingembre, et puis café, des biscuits. Et puis, et à l'intérieur, il y a des dominos. Ben, c'est comme, ben, non seulement on jouait, et puis on chantait, et puis on parlait. Parler de la personne qui est morte, parler de ses vécus, de tout. Et c'est l'occasion aussi de dire tout ce qu'on a envie de dire. C'est comme dans un rara, c'est comme dans une bande à pied. Ben, c'est parler tout ce qu'on a envie de dire, c'est parler de tout et de rien. Et c'est le moment idéal de faire des commérages aussi. C'est le moment idéal de... Voilà, des histoires.
La tradition, c'est quand même de raconter des blagues sur le mort.
Voilà. Et parce que nous, on a un autre rapport avec la mort parce qu'on dit. Et on a pied vérité. Ça veut dire que. Ben, parce que ben, toi, tu es traversé au-delà. C'est toi seul qui sais qu'est-ce qu'il y a au-delà. Et parce que nous, on n'est pas encore traversé. Et puis. Alors, ben, on t'en prie, ben, tu vas nous raconter ce que tu as vu dans l'au-delà. Et parce que nous, notre rapport avec les morts, c'est dire que c'est une cohabitation. C'est parce que c'est une cohabitation au sens inversé. Parce que la cohabitation entre la vie et la mort à la vie, ben, c'est juste... une file qui c'est une ligne qui nous sépare ben c'est et ça c'est tout c'est en forme inversée et puis c'est comme le jour la nuit et la nuit c'est d'autres jours ben c'est notre rapport c'est notre imaginaire collectif qui est tenté par ça et on vit au quotidien parce que nous lors de la veillée on rend hommage et aux défunts et puis on se dit ok tiens voilà parce que on sait que l'esprit de cette personne là est il nous habite l'esprit de cette personne là est aux alentours de nous mêmes parce que on vit au quotidien avec les esprits.
Je voulais juste rajouter quelque chose d'abord. J'espère que vous avez compris que c'est plus ou moins une sorte de commémoration heureuse, mort heureuse, quelque part, et dans sa commémoration, justement. Mais quelque part, il y a l'impossibilité d'être heureux, au fait, dans des circonstances bien précises, tout comme la mort en masse, qui est plutôt cette industrie qui est là pour fabriquer des morts. Le cas des gangs à Port-au-Prince qui tuent en masse. Et évidemment, c'est pas le même contexte, c'est pas le même sentiment et la même manière de concevoir la mort, mais généralement et culturellement surtout, c'est ça l'idéal. Ce serait que dans le cas de la perte d'un prochain, enfin de quelqu'un de sa famille, d'un ami, etc., un proche, ce serait de considérer plutôt qu'il est loin de tout ce mal que nous subissons ici et qu'il est surtout dans sa vérité parce que il y a aussi cet autre aspect dans chez les morts on est toujours dans le vaudou d'ailleurs ça je sais pas si le fait d'être ougan James Desiris t'empêche quelque part de nous expliquer dans les détails comment ça se passe. Mais le fait est que, ouais, donc ces gens-là, le lieu qu'ils habitent est un lieu en interaction avec le nôtre. Et donc, ils observent ce qui se passe et quelquefois, ils chuchotent même des histoires. Ils nous conseillent, ils vivent avec nous et nous ressentons. Et là, je reviens à la connaissance sensorielle des choses Et même des fois, nous faisons des choix comme ça sans vraiment savoir pourquoi, mais il y a des influences, je pense, qui nous dépassent et qui viennent de cet autre monde. Donc voilà, c'est juste pour faire la différence entre cette mort plutôt fabriquée, cette machine qui est là pour théoriser finalement et empêcher de vivre, et la mort naturelle, entre guillemets, qui est plutôt une joie, puisque ces gens non seulement vont nous aider depuis l'au-delà, mais aussi sont encore là, au fait, malgré leur absence.
En tout cas, merci de nous partager quand même ce moment de week. Et je pense que de week, il se passe de façon informelle déjà en Europe, parce que je me rappelle que le directeur de l'OFPRA, enfin, c'est l'Office français enfin, d'apatrides, enfin, c'est pas un truc comme ça qui gère l'immigration et tout. Donc l'OFPRA, c'est un office, au fait. Et donc le directeur, il est nommé par le ministère de l'Intérieur, tout ce que tu veux. Donc il a démissionné en 2016, parce que tous les catomes qui se passent à la Méditerranée, il était zombifié par ces morts-là. Fait, à chaque fois, il dormait pas, donc de quoi. Donc de où qui se passait. Et donc, merci de partager ça avec nous. Et cet enregistrement prend fin ce soir. Et je remercie très sincèrement de Living and the Dead Ensemble de partager cette connaissance avec nous et avec les personnes présentes. Et merci.
Merci, mamie.